Ouais, je mets un enregistrement. Donc vous aurez sûrement... Comment ?
Faut
que je parle dedans, il m'a dit, oui, il faut que je parle dedans. Donc vous avez sûrement des choses différentes à raconter sur ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc comment je vous passerai, si comme ça vous... par exemple, moi j'ai en tête quelque chose sur l'intersexe, le copain intersexe qui a été super intéressant. J'ai en tête un atelier sur l'Arménie hier soir qui a été super intéressant. Mais j'imagine que chacun d'entre vous, vous avez des choses complètement différentes. Je commence quand même une petite introduction sur la période historique. D'abord, j'ai amené ici, si vous voulez vous les passer, des documents qui sont les actes, en quelque sorte, des dernières UEH. Quand je dis les dernières, c'est la deuxième série, c'est-à-dire 99 à aujourd'hui, où on a pris la peine de faire des actes de ces universités d'été. Quand je dis on a pris la peine, c'était pas les universités d'été en tant que telles qui ont fait des actes, parce que faire des actes des universités d'été, c'est extrêmement cher. Si vraiment les UEH avaient voulu les faire, donc c'est le petit gars qui est venu tout à l'heure, qui a fait un énorme travail de Pascal, il s'appelle, qui a fait un énorme travail, et on a beaucoup parlé de lui pendant les premières séries des universités avant 2003, parce qu'il passait un temps indéfini à enregistrer les ateliers, vous vous souvenez, bon. Mais après, il en a fait le décryptage. Bon. Et les UEH ont été bien embarrassés avec cette histoire d'enregistrement et de décryptage, parce que si vraiment elles voulaient rémunérer le travail fait, ça aurait été des sommes fabuleuses qu'il aurait fallu sortir. Du coup, les UEH n'ont décidé depuis 2-3 ans de ne faire que les actes du colloque, et pas du reste. Ça n'empêche qu'on continue à enregistrer, ce qui fait que il pourra y avoir des transcriptions qui pourront être faites, mais c'est l'association Mémoire des Sexualités qui fait les transcriptions sans rémunération, en quelque sorte, voilà, parce qu'au cours de l'année... Bon, ça c'est une parenthèse. En revanche, pour les universités d'été, qui s'appelaient les universités d'été homosexuelles, il n'y avait pas le mot euroméditerranéenne, les universités d'été des homosexualités, pardon, qui existaient de 1979 à 87, il n'y a aucune mémoire, il n'y a pratiquement aucune mémoire, sauf la mémoire que certains d'entre nous ont pu rassembler, soit parce que c'est leur par hasard, ils ont rassemblé des choses, soit parce que de façon un peu plus systématique, ils ont rassemblé des choses. C'était un peu mon cas, mais il n'y a pas de texte, il n'y a pas de texte écrit. Le seul, donc il y a, comme dans toute règle, il y a une exception, le seul document qui existe sur cette période-là, c'est celui-ci qui a été fait à l'université d'été de 1985, a été réalisé par une petite équipe qui, animée par Jacques Vandenberg et Jean Le Bitou, qui a organisé un cycle de conférences à cette époque. Et vous pourrez voir, si vous voulez le regarder, que parmi les intervenants, il y avait Geneviève Pastre, Eliane Morissens, pour ceux qui connaissent bien la Belgique, hein, oui. Michel Vincino, je crois qu'il est français.
Non, il est belge.
Il est belge, donc voilà, donc deux Belges. Frédéric Edelman et Daniel Defer étaient présents. C'est d'autant plus intéressant que c'était l'année de la création de Aide Provence. Pas de Aide Provence, j'ai dit des bêtises. De Aide Nationale. Aide Provence a été créée dans la foulée. Mélanie Badler, dont certains d'entre vous se souviennent peut-être, en fait c'est un surnom qu'il s'était donné, hein. Mélanie Banner, c'est Jean-Michel Rousseau qui est intervenu au colloque qu'on a fait en 2002 sur 20, qui s'appelait 20 ans et après, et qui a raconté l'histoire de la revue Homophonie, qui était le périodique que diffusait le QR, donc au début des années 80. il y avait quelqu'un qui s'appelait Jean Dumargue, dont j'ai une petite mémoire, mais bon, c'est surtout parce que lui, il travaillait sur les questions sur l'Afrique, il devait être coopérant en Afrique ou enseignant, je sais pas, et du coup, il vient nous raconter un peu ce qui se passait ailleurs. Il faut bien voir que pendant de nombreuses années, aux UEH, il y avait un vrai désir de s'intéresser aux autres pays, aux autres continents, mais en même temps, une incapacité totale de faire venir des gens des autres pays, des autres continents. Donc, c'était des informations comme ça, par des gens qui étaient allés là-bas. Voilà, donc vous pouvez le regarder. C'est pour dire que dans ces années-là, on a eu, je le garde encore un certain temps pour pouvoir en parler, on n'a pas de documentation. Voilà. Alors, quand même, je dis quelques mots sur ces années-là, ces premières universités d'été homosexuelles ou des homosexualités qui existaient à cette époque. En 79, il y a le GLH de Marseille, qui est un des GLH les plus actifs, sans doute, au niveau national, mais il n'y a pas que lui, parce qu'à Paris, il y avait beaucoup de GLH, il y avait aussi les comités homosexuels d'arrondissement, pour ceux qui ont mémoire ou qui ont lu des documents. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient à Paris, mais l'idée même de créer l'université d'été homosexuelle, c'est un truc, j'allais dire un peu génial, quoi. Enfin, à voir la pérennité qu'elles ont encore. C'était une idée forte de dire faisons un lieu à nous. Jacques Fortin le dirait beaucoup mieux que moi, d'ailleurs il s'exprimera demain. Faisons un lieu à nous dans une période où il y avait une énorme effervescence politique, militante. Ce qu'on apprend aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant de faire le parallèle, je pense aux Arméniens que j'entendais hier soir, mais c'est pareil quand on entendait nos amis de Roumanie, de Pologne, des pays d'Amérique latine il y a quelques années, ou même encore aujourd'hui quand ce sont les pays où il n'y a encore rien qui s'y passe, c'est un peu ce qui se passait à l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait une dimension à la fois héroïque, alors certes moins héroïque, que pour eux aujourd'hui dans certains pays encore. Mais enfin, il y avait cette dimension-là, un peu exceptionnelle, de folie à tous les sens du mot, c'est-à-dire folie dans l'expression, dans la façon de vivre, d'être, à un moment où ça ne, c'était complètement inimaginable qu'on se mette à se promener avec des vêtements, des tenues, tenir des propos, organiser des... tenir des propos dans les radios, dans les médias, se montrer en photo, parce que qui osait parler à la télé, qui osait parler devant des journalistes, c'était, à tous les sens du mot, c'était quelque chose héroïque aussi au sens politique du mot, en ce sens que il faut bien voir que en 79 il n'y a pas eu encore la loi de 82, c'est-à-dire qu'on est encore dans la pénalisation des relations homosexuelles. Il n'y a pas encore eu, il y a eu depuis peu de temps, sous Giscard d'Estaing, l'abaissement de l'âge de la majorité. C'est-à-dire qu'à 21 ans, on était majeur, en 74, donc quelques années avant. Donc, tout le débat sur la question de l'âge de la minorité et les débats qu'on a aujourd'hui sur la pédophilie, on peut faire le rapprochement, c'était... des débats internes très forts dans le mouvement homosexuel. Qu'est-ce que c'est qu'un âge de majorité? C'est pas parce que le gouvernement vient de nous descendre l'âge de la majorité de 21 ans à 18 ans que c'est un âge acceptable. Pourquoi ils ont choisi 18 ans? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le droit de vote à 18 ans, la majorité à 18 ans? Pourquoi ils n'ont pas choisi 19? Pourquoi ils n'ont pas choisi 16? Bon, donc il y avait... on était encore... là je parle de la dimension, héroïque c'est un grand mot, mais de la dimension de courage que ça représente à ce moment-là, parce que les lois sont encore là, elles sont pas loin, les services, imaginez que les fichiers de la police n'ont été abolis par Gaston Defferre, enfin, par le ministre de l'Intérieur à ce moment-là, non, que en 81. Donc on est encore dans la période où il y a les fichiers de la police. On est surtout dans la période où dans la tête des gens, et c'est ça qui est le plus important, parce que le temps pour que dans la tête des gens les attitudes changent est beaucoup plus long que quand a posteriori on dit oui mais quand même en 82, mais quand même en 81, mais quand même en réalité dans la tête des gens, le souvenir des agressions qu'ils ont subies, des répressions qu'ils ont vécues, des saunas qui ont été visités par la police à l'heure où il se passait des ébats, etc., etc., des dénonciations, des agressions de toutes sortes, des propos tenus par les journalistes dans la presse. Les propos, les journalistes, c'est pareil, ils n'ont pas changé leur mentalité d'un coup. Quand il y avait une affaire homosexuelle de mars, eh bien, ils continuaient à écrire comme deux ans avant, comme trois ans avant, comme quatre ans avant, des propos orduriers à l'égard des homosexuels. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a la loi que tout est changé. Donc, en 79, on est dans ce contexte-là qui est dans nos têtes. Moi, je suis tout jeune, même si j'ai déjà passé 30 ans. Je suis tout jeune parce que j'assume mon homosexualité depuis tellement de peu de temps que je me trouve arrivé dans ce GLH incroyable de diversité de personnes. On n'est pas super nombreux, mais les gens sont tellement différents. Comment aurais-je pu les rencontrer en dehors que dans ce mouvement homosexuel qui est à nouveau creusé, des amitiés, de l'affection qui tout d'un coup se crée parce que on se serre les rangs, on se serre les coudes, pardon, comme si on était les nouveaux chrétiens, enfin les premiers chrétiens, pardon, on se serre les rangs dans les catacombes, enfin je veux dire, on se serre les coudes comme ça par rapport à une situation qui est très majoritairement une situation d'oppression, de contraintes, de suspicions, hein, de toutes les personnes. On se soupçonne pas, et par chance, dans le groupe. Bon, ben vous avez tous connu ça par votre cheminement militant, mais à cette époque-là, il y a un contexte particulièrement difficile, enfin pénible, etc. Et peu nombreux sont ceux qui prennent le flambeau et ont le courage, je vous le disais tout à l'heure, de s'exprimer devant des journaux, tant et si bien que même moi, à ce moment-là, extrêmement encouragé par ce groupe, bon ben un jour il y a la télé, c'était Antenne 2 je crois, qui dit je suis prêt à faire une émission, et moi, sans trop de réfléchir, c'est la première fois que une télévision venait, je me suis dit ah, il y a peut-être des risques, on me disait qu'il y avait des risques, donc du coup j'ai dit non, alors que j'étais suffisamment fou pour avoir dit oui. J'aurais pu dire oui, mais bon, ça s'est joué comme ça. Donc c'est le contexte national, le contexte local. Et puis, je ne peux pas ne pas citer donc le nom de Jacques Fortin, je l'ai déjà fait, qui, et c'est vrai, était pour ce groupe un liant étonnant, quoi. Il avait à la fois la pêche et l'énergie du militant politique, déjà, hein, très engagé politiquement, à la fois le charisme qui faisait l'unité de tout ce groupe, et en même temps le relationnel, les relations au niveau national, qui faisait que il savait qu'en prenant une telle initiative, il y avait beaucoup de gens au niveau national, alors certes un peu à travers son parti politique, puisqu'il était déjà très engagé, donc à l'extrême gauche, mais au-delà, parce que il y avait le réseau de Guépier, même si Guépier n'existait pas encore, ou était juste en train d'apparaître. Il y avait le réseau des gens qui vont créer la revue Masque, il y avait le réseau des gens qui vont créer un peu plus tard, des filles qui vont créer un peu plus tard la revue Lesbia. Il y a ce contexte-là qui fait que, et puis il y a les groupes au niveau national qui commencent à se rencontrer, avant l'UEH de 79, il y a les premières rencontres. Je me souviens de au moins deux rencontres, mais je sais qu'il y en a eu d'autres. Je me souviens d'une rencontre à Lyon, sous la houlette du GLH de Lyon, qui s'appelait Interlope, animé par Jean-Paul Montanari, qui est actuellement le directeur du festival de Montpellier, du festival de danse de Montpellier, par Bruno Herail, qui est revenu à GEH de 99-2000, et par un certain nombre de personnes, comme ça. Moi, je crois que ça vaut la peine de citer les personnes. Parce que, c'est des gens qui se sont, même si à l'époque, on disait pas les noms, hein, mais ça vaut la peine, d'abord, on peut les retrouver aujourd'hui, pour certains d'entre eux. D'autres, au contraire, ont complètement disparu et ne souhaitent plus du tout apparaître. Donc, dans ces cas-là, effectivement, j'hésite à reciter leurs noms, puisque s'ils le veulent pas, c'est un peu plus difficile. Mais, donc, il y a la réunion organisée par Interlope à Lyon, qui rencontre, on est à la fin, Interlope à Lyon, je crois que c'était après le H de 79. Donc, c'est juste après, au mois de novembre. Non, il y en a un autre événement, une autre rencontre que je cite, qui est une rencontre organisée par ceux qui seront les fondateurs de Guépier, qui se passe en Ardèche. Donc, ce sont des vacances d'été en Ardèche, mais de façon incroyable, s'y retrouvent tous ceux qui seront animateurs de quelque chose dans les mois qui viennent. C'est-à-dire que le mouvement homosexuel est surtout garçon à ce moment-là, il n'y avait pas de filles homosexuelles. Le mouvement homosexuel sent bien qu'il y a quelque chose de très nouveau qui est en train de se construire. C'est pour ça d'ailleurs que nombre d'entre eux feront le pari de lancer des initiatives. Je parle de celle de Guépier, il y a celle des UEH, mais il y a d'autres initiatives qui vont venir. Font le pari de lancer ces initiatives parce qu'ils se disent le moment est venu. Le moment est venu, hein, quelque chose de souterrain, quelque chose de fort est en train d'apparaître. Et donc, à l'été 78, il y a cette réunion au Mazel en Ardèche, cette réunion, ces vacances au Mazel, où se trouvent des gens que je connaîtrai plus tard dans des tas de groupes différents à travers la France. Et c'était un moment extraordinaire de vacances, quoi. Peut-être que ça a dû inspirer, ça a inspiré aussi pour les UEH, parce que donc l'été d'avant, il s'était passé ça. Il se passait aussi quelque chose qui était des campings gays, qui s'était tenu justement cette année-là, 78, en Grèce. Et ce camping gay en Grèce, je sais pas, je crois que c'était à Mykonos, mais je suis pas tout à fait sûr, j'y étais pas allé, a laissé une mémoire importante à beaucoup de gens, comme étant un moment privilégié pendant l'été de se rassembler, de se retrouver. Alors, ça c'est pour expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a dans la tête des personnes à ce moment-là. Mais il y a d'autres choses dans la tête des personnes, et par exemple, Jacques Fortin aime bien dire mais à ce moment-là, il y avait aussi l'université d'été des partis politiques qui commençaient à apparaître. Je ne sais plus, c'est notamment l'université d'été des partis de droite du moment, je crois que c'était le Giscard d'Estaing avec son UDF, je crois que c'est ça, qu'il avait fait l'été d'avant, les deux étés d'avant avaient fait ces universités d'été. Donc, est-ce que ça allait être un séjour de vacances? Est-ce que ça allait être université d'été? Le choix d'appeler ça université d'été, même si on a été dans des vraies discussions à ce propos, on disait oui, mais finalement le projet, parce qu'au fur et à mesure qu'on avançait, on se rendait bien compte que c'était surtout festif et peu intellectuel, moins intellectuel, moins université d'été. Enfin, moi par exemple, le souvenir que j'avais de ce que c'était que l'université, c'était quand même quelque chose de très structuré, c'était pas la bonne franquette. Bon. Donc il y a eu des petites discussions entre nous, est-ce qu'on va appeler ça un festival, est-ce qu'on va appeler ça université d'été. Le choix d'appeler ça université d'été, c'était vraiment un choix très fort qu'il y avait dans un certain nombre de mouvements qui voulaient prendre place, prendre position sur la place publique en ayant dès le début une appellation qui soit aisément acceptable. Je veux dire par là que il y avait aussi beaucoup, aisément acceptable par le monde hétéro, c'est ça que je veux dire, reconnaissable par le monde hétéro. C'est vrai qu'à ce moment-là, on avait, je voulais, quand on parle des comités homosexuels d'arrondissement, enfin, je veux dire, toutes les appellations qu'on avait à l'époque, issues de mai 68, du phare, etc., c'était des appellations, au contraire, très, très colorées, très provocatrices. Bon, ça n'a pas, et ce n'était pas le choix. Et ça, c'est aussi, Jacques Fortin a un rôle important dans cette affaire. Lui, il voulait du. De l'affirmation face au monde hétéro, et donc, bon. Et ce qui est, donc grâce à toutes ces connaissances qu'il y avait au niveau national, et grâce à cette dynamique locale, l'idée de l'université d'été homosexuelle a été lancée, voilà, au printemps 79, il faut bien voir que tout cela, à l'époque, et ça sera pareil d'ailleurs dans toutes les universités qui vont suivre, jusqu'à 87, peut-être celle de 87 était préparée un peu avant, mais bon, elles ont toutes été préparées, mais en 2-3 mois, quoi, hein, en 2-3 mois. C'était, la décision était prise en avril, et encore quand elle était vraiment prise, bon. Je me souviens de l'université d'été où je suis allé à la Gay Pride de Paris, c'est comme ça qu'on l'appelait, et les Parisiens me reconnaissant comme Marseillais me disaient « Alors cette année, y a-t-il l'université d'été ?» Et j'étais même pas capable de le dire, on était un mois avant. Bon, j'étais même pas capable de dire si oui ou non on allait la faire, même s'il y avait déjà des jalons qui avaient été posés, il n'y avait pas l'énergie encore, il n'y avait pas le... Bon. Ça aussi, c'est une grande caractéristique de cette époque, c'est l'énorme spontanéité. L'énorme, tout se faisait, alors c'est vrai qu'on n'était pas super nombreux et nombreuses, c'est vrai que il y avait la spontanéité renversait les montagnes, hein, qu'on arrivait à faire des choses en très peu de temps avec très peu de choses. Mais c'est quand même assez incroyable quand on voit comment aujourd'hui, 30 ans plus tard ou presque, une année de préparation et encore on n'est pas sûr d'y être, etc. Et c'est un travail intensif. Bon, c'est complètement l'inverse. À l'époque, c'est en quelques mois, quoi. Alors, ça c'est 79. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 79? Il s'est passé plein de choses incroyables. Je suis un peu pris de court parce qu'il faudrait que je me mette devant le programme de 79, mais je l'ai là, pour être un peu plus précis sur le contenu. Bon. Je dois l'avoir là. 79, c'est d'abord, le Crous refuse de le recevoir. Ça, c'est le premier élément de 79. En avril, donc on avait déjà quand même pris les contacts dès le mois d'avril, enfin avant avril, en avril, on reçoit un courrier du Crous qui nous refuse l'accès à l'utilisation des chambres universitaires. Alors que, à l'époque, on ne demandait pas ici, on demandait d'autres chambres universitaires à Saint-Charles ou à... pour ce Marseillais, il y a une cité universitaire qui est juste en face de l'hôpital de la Pimone, qui s'appelait, dont j'oublie le nom là. Bon, quelles que soient les chambres, on les refuse. Donc, il y a eu une réaction, il y a eu une vraie déstabilisation du groupe qui envisageait ce projet. Et il y a eu ceux qui ont été complètement découragés et qui ont dit non, ben on arrête tout. On n'a pas de quoi héberger les gens, on ne peut rien faire. Etc. Et puis, il y a eu quelques fous, dont Jacques Fortin n'a pas fait partie, ça m'amuse parce que je ne l'ai appris qu'il y a 8 jours, par justement celui qui a fait partie des fous, il me dit, on n'a été que 3 ou 4, rappelle-toi, moi, d'après ce qu'il me dit, j'ai été neutre, je ne me suis pas exprimé, ça non plus, j'en avais pas mémoire. On n'était que 3 ou 4 à dire il faut absolument le faire. On s'en fout, il faut le faire. Alors, ça a commencé par une grande manifestation, dont on peut dire que c'est quasiment à Marseille, c'était la première Gay Pride, en avril 79, sur les escaliers de la gare Saint-Charles. Et alors là, ça a été incroyable, parce que la presse a parlé de ça, c'est la première fois que les homosexuels apparaissaient publiquement et nombreux à Marseille. Et l'étouffement en question, c'était surtout les organisations des spectacles, enfin, notamment l'organisateur des spectacles, qui lui avait un bon réseau relationnel dans le monde des spectacles à Marseille, et qui a dit, eh bien, on va s'en sortir, au moins pour la partie spectacle, sans aucun problème. Donc, on a contacté le directeur de Théâtre du Merlan, le directeur de plusieurs lieux, quoi. Hein. Le directeur de la salle Saint-Georges, ben, on a pu le faire grâce à la ville de Marseille. On a pu contacter la vieille charité et avoir l'utilisation de locaux à la vieille charité pour des ateliers. Donc, salle Saint-Georges, c'était plutôt pour des grands débats publics, les grands forums. La vieille charité, c'était plutôt pour des ateliers, etc. Enfin, au fur et à mesure, on s'est débrouillé. Mais surtout, ce qui était extraordinaire, c'est que notre grand animateur de spectacle est arrivé. Ça, c'est un charisme aussi qu'il a, et c'est difficile de ne pas citer son nom. C'est Gérard Goyer, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Heureusement qu'il y avait des gens qui avaient des charismes comme ça. Lui, il est arrivé à avoir des acteurs ou des chanteurs. En l'occurrence, c'était, pour ceux qui peuvent se souvenir, les Mirabelles. Vous allez vous souvenir des Mirabelles, hein, théâtre, qui ont fait parler d'eux après. Théâtre d'Avignon, etc., tout un groupe de gays qui faisaient du théâtre. Les étoiles, il y en a parmi nous qui se souviennent des étoiles, les étoiles extraordinaires qui étaient en France à ce moment-là. Un groupe de Brésiliens qui étaient en France et qui étaient beaucoup moins connus, qui s'appelaient les Stupidas. Ils avaient trouvé ce nom-là, je ne sais pas, avant... mais on a eu des choses absolument extraordinaires au Théâtre du Merlan, qui était un beau théâtre moderne à ce moment-là, ouvert depuis pas très longtemps. Dans les quartiers nord, il fallait de la vertu parce que les conditions d'accès n'étaient pas évidentes. Et voilà, enfin, on a eu des choses incroyables. Et du coup, on a eu quelques grandes personnalités du monde homosexuel et lesbien qui sont venues. Je pense à Daniel Guérin, qui est venu, je ne sais pas comment, il a été au courant, il est venu, peut-être que Jean-Louis Bitou lui en avait parlé, peut-être que, je ne sais pas, enfin, Jean-Louis Bitou le connaissait parce qu'il l'avait interviewé, je ne sais pas s'il l'avait déjà interviewé, mais enfin, Jean-Louis Bitou avait déjà un bon réseau relationnel parmi pas mal d'intellectuels, parce que pour lancer le journal Guépier, il avait contacté un réseau important. Daniel Guérin est venu en short, vieux monsieur, bon, je me souviens de lui justement au Théâtre du Merlan, Françoise Daubonne, et puis je crois que Geneviève Pastre, sûrement, était là. Voilà, enfin, quelques grandes personnalités sont venues dès cette année 79, et tout cela a donné une force extraordinaire à cette première grande rencontre à Marseille. Et je pense que ça a dû jouer après pour le souvenir que les gens en ont gardé. On a dû être, je ne sais pas, 250, 300 personnes, c'était pas... mais est-ce que même on était autant que ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était absolument incroyable. C'était, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un peu cette période héroïque, quoi, de sortie du placard ou sortie du placard collective où déjà plein d'initiatives commençaient à germer dans les têtes et du coup des ateliers où on s'est trippé, mais enfin, parce qu'évidemment, comme toujours dans ces périodes de révolte, il y a ceux qui sont les jusqu'au boutistes, donc il y avait ceux qui étaient inspirés du phare, inspirés de... qui voulait aller très loin, d'abord, la première grande bataille, ça a été c'était l'abolition des derniers articles discriminatoires. Hein. C'est la première grande bataille de 79, évidemment. Donc le débat politique avait lieu, puisqu'il y avait le sénateur Caillavet, il y avait un certain quelques politiques qui avaient un peu de courage pour faire avancer les choses. D'ailleurs, le sénateur qu'il y avait était arrivé à faire avancer les choses au Sénat, mais à l'Assemblée nationale, ça avait bloqué. Vous vous souvenez qu'à l'Assemblée nationale, on s'était trouvé avec le courage extraordinaire de Simone Veil sur la question de l'avortement. Bon. Donc, on était devant une Assemblée nationale qui était quand même encore, qui ne voulait pas aller bien, pas aller trop loin. Alors, il y avait eu l'abolition de l'amendement Mirguet, qui concernait plus particulièrement les relations entre adultes, qui considérait que l'homosexualité était un fléau social. Donc, il y avait déjà eu cette première étape. Mais il fallait absolument aller abolir l'article 331 alinéa 2 qui était encore, alors je ne pourrais pas vous dire, il y a sûrement des juristes parmi vous là qui peuvent dire exactement bon, si vous souhaitez qu'on aille analyser ça à l'époque. Mais donc il restait encore des articles discriminatoires, mais il y avait eu déjà une première abolition, une première étape. Et ce que je voulais dire, c'est que, du coup, il y a eu, à cette université d'été de 79, parce que nous étions dans la révolte, mais nous étions aussi dans la construction de quelque chose, de nouveaux réseaux qu'il fallait absolument construire, que nous, certains d'entre nous estimaient qu'il fallait absolument construire, et c'est là qu'est né le QAR. Donc, le comité d'urgence anti-répression homosexuelle, l'UEH donnait l'occasion à des copains et des copines venant de tous les coins de France de se rencontrer et ils disent, elles disent, il faut poursuivre cette rencontre, il faut qu'on crée une plateforme commune. La plateforme, c'était l'abolition des articles discriminatoires, mais c'est aussi les modalités de fonctionnement entre nous. Comment on va fonctionner? On va se retrouver périodiquement d'une façon ou d'une autre pour aller plus loin, pour avancer dans cette bataille. Deuxième groupe qui se constitue, les deux autres groupes qui se constituent n'auront pas la même n'auront pas la même postérité, si je peux dire. C'est-à-dire qu'il y en a un qui s'appelle le groupe de recherche pour une enfance différente, le GRED, qui pose essentiellement et surtout la question de la relation à l'enfant, avec toutes les ambiguïtés qu'on a à ce moment-là, à partir de ce que je vous ai dit sur la question de l'âge de la majorité, enfin de l'âge de la majorité et du droit à la majorité sexuelle, qui la question de l'âge de 15 ans, etc. Ce groupe-là, et puis il y a un autre groupe qui s'appelle le CHEN, Comité homosexuel pour l'éducation nationale, ou de l'éducation nationale. Donc c'est les trois groupes, en quelque sorte, qui se constituent lors de cette université d'été. Alors après, alors le QAR aura sa propre postérité, mais si vous voulez, on en parlera, enfin si vous voulez en parler, on en parlera, mais je vais continuer à parler des autres universités d'été. Les universités d'été n'ont lieu que tous les deux ans. Pourquoi? Parce que le GLH, qui était organisateur, était épuisé au sortir de... Alors, je ne sais pas si c'est la raison, mais c'était surtout qu'il a fallu deux ans pour se donner l'idée que ça valait la peine de faire une deuxième université d'été. La première ne s'était pas appelée première, elle s'était appelée université d'été. Donc, l'idée de recommencer, il a fallu du temps pour que ça mérite. Le QAR a très bien fonctionné de sa belle, de sa belle existence, etc. Le Homophonie, le journal du QAR, le journal Guépier, le journal Lesbia, le journal La Revue Masque. Bon, beaucoup de choses existaient. Était-il absolument nécessaire de se retrouver? Et le désir de se retrouver a été plus fort. Soit le GLH de Marseille a trouvé que c'était quand même une occasion extraordinaire, soit les sollicitations qui venaient de divers côtés a fait qu'il y a eu la deuxième université d'été. 81, l'année où la gauche venait d'arriver au pouvoir. Ça a été une bonne occasion pour le QA, qui venait d'avoir ses premiers entretiens avec le ministre de l'Intérieur sur la question des fichiers de police, le mouvement homosexuel redynamisé, pas seulement par l'arrivée de la gauche au pouvoir, mais par, dynamisé plus exactement, par le fait que Mitterrand, candidat de la gauche, avait prononcé les paroles qu'il fallait prononcer pour le milieu homosexuel. Les paroles consistant à dire qu'il reconnaissait les homosexuels, enfin, la réalité des homosexuels, et qu'il contribuerait à la disparition de l'article 331, de la linéa en question de l'article 331. Et donc ça a été une belle université d'été, hein, qui s'est bien passée. Bon, après, 85, je le disais tout à l'heure au tout début, donc il y a eu à la fois, si vous voulez, il y a eu ce que dénonce Frédéric Martel dans son livre, une dénonciation qui a été extrêmement mal vécue par l'ensemble du mouvement homosexuel, c'est-à-dire qu'à la fois vous avez une montée extraordinaire du désir de vivre, hein, du plaisir de vivre, enfin la possibilité pour les homosexuels de vivre au grand jour, donc quelque chose qui est extrêmement dynamisant, extrêmement fort. Et à la fois, vous avez l'arrivée du sida là au milieu, un peu après en décalage. Mais le décalage fait que ce mouvement homosexuel avait déjà pris un essor important. Et il avait tout le discours était un discours de libération. Au moment où le sida est arrivé, ce discours de libération était déjà très fort. Et ce qui fait qu'il y a eu un télescopage terrible, entre l'arrivée du sida et ce mouvement. Et quand on ne va pas rentrer là-dedans, mais Frédéric Martel, s'il a été critiqué, c'est surtout parce qu'il dit les homosexuels ont été incapables de comprendre qu'il fallait s'occuper du sida. Ils étaient dans un tel décalage mental que, effectivement, il a fallu du temps pour comprendre que ce sida, il a fallu du temps pour que, d'abord, que le sida touche effectivement les proches. Et donc, pendant tout le temps où il ne touchait pas les proches, eh bien, il y avait l'inconscience et le désir de vivre, etc. Bon. Donc, il y a eu, et c'est intéressant de le lire là-dedans, le moment où Daniel Defay et Frédéric Edelman s'expriment devant ici, enfin, je ne sais pas si c'était déjà ici, s'expriment dans un amphithéâtre, je ne suis pas sûr, je crois que c'était ici. C'est tellement dur à entendre ce qu'ils disent qu'ils sont un peu accusés d'être d'apporter l'américanisation, enfin bref, des accusations diverses, complètement inadéquates, évidemment, mais c'est tellement dur d'entendre ce qu'ils sont en train de dire sur ce qui est en train de se passer. Soit aux États-Unis, soit déjà en France, que des débats, une incompréhension totale. 87, dernière UEH de cette époque. Jacques Fortin n'est plus là. Je vous ai dit tout à l'heure énergie et quel charisme il véhiculait avec lui. Jacques Fortin n'est plus là pour des raisons personnelles. Il n'est plus ici. Peut-être qu'il est lassé, il est fatigué, ça peut se comprendre. Donc, il y a un autre président au GLH de Marseille et qui décide, on a trouvé le rythme de tous les deux ans, donc celle de 87, on va la faire. Et moi, je fais partie de ceux qui disent qu'il faut absolument la faire, évidemment. Donc, on fait l'université d'été de 87. Mais c'est une université difficile, parce que il y a moins de gens, il y a beaucoup moins de gens. Est-ce que c'est le sida qui joue un rôle majeur? Est-ce que c'est le fait que des lieux de convivialité qui n'existaient absolument pas en 79 existent partout, notamment des lieux commerciaux, mais pas que des lieux commerciaux, des associations se sont développées de toutes sortes. Donc, 87 est une année où l'UEH est beaucoup moins importante, moins de gens viennent. Mais pour la première fois, quand même, je me souviens de ça, Guépier, alors évidemment, c'est pas le Guépier des années 79-83. Vous savez peut-être qu'il y a eu une coupure très forte entre ceux qui étaient les initiateurs de Guépier et ceux qui ont été, il y a eu une révolte intérieure dans le journal, et ceux qui étaient les porteurs du Guépier suivant, hein, quand c'est devenu Guépier Hebdo, quand c'est devenu un Guépier beaucoup plus accusé d'être commercial à cause des publicités, à cause de etc. C'est plus tout à fait le même Guépier, mais enfin il y a quand même Hugo Marsan, René de Secati, toute une série de personnes intéressantes. Hein. Et donc Hugo Marsan organise, amène avec lui, si je peux dire, un certain nombre d'écrivains. Et donc on a eu des rencontres avec des écrivains qui ont été très intéressants. Il y a eu des tas de débats politiques, mais il y a eu un débat politique qui a été un peu mortel pour l'UEH à ce moment-là, qui a été l'histoire de la venue d'une association qui était une association d'extrême droite qui s'appelait Gay France. Alors, Gay France, c'était surtout un journal, c'était pas tellement une association. Gay France prônait les valeurs helléniques, les amours socratiques. Ce targuait, en réalité, c'était largement un paravent aussi. Hein. Tu pourras m'aider, Jacques, si tu te souviens. C'était un peu un paravent d'une certaine façon de vivre l'homosexualité et la pédophilie. Donc, il y avait dans le journal Gay France des photos de mineurs, etc. Ça a créé un clash incroyable pour cette université d'été. Il n'y avait plus Jacques Fortin qui était la référence morale qui, dès le début, en quelque sorte, vraisemblablement, je dis ça vraisemblablement, aurait crié halte-là, il est hors de question de les laisser participer, etc. On a eu au contraire des gens, moi je sais que j'ai pas vu venir, bon, mais enfin c'est pas, il ne s'agit pas de moi parce qu'on était toute une équipe, j'ai pas trop vu venir le coup, et leur inscription a été acceptée. Bon, voilà. Ce qui fait qu'une fois que le H était ouvert, et bien, ils étaient présents, ils ont installé leur stand, etc. Et ça a été mortel pour l'UH, quoi. Mais l'histoire de Gay France, certains d'entre vous ont peut-être mémoire de cette affaire et pourront en parler un peu plus. Mais je ne pense pas que ce soit cette affaire-là qui a été mortelle pour l'UEH, ça a été un des éléments. Ce qui a été mortel pour l'UEH, c'est que simplement, ce que j'ai dit tout à l'heure donc sur le sida et sur la réalité nouvelle qui s'était créée, rappelez-vous, David Girard avec ses lieux commerciaux extraordinaires, et puis, surtout, l'effondrement du GLH de Marseille, parce que je crois que c'est ça qui a été décisif. Tout de suite après l'UEH 87, le GLH de Marseille s'est effondré, ou peu de temps après. Il faut bien voir que pour un groupe comme ça, local, d'organiser les UEH, c'est un travail terrible. D'ailleurs, les administrateurs d'aujourd'hui peuvent vous le dire, c'est un travail terrible. C'est encore plus difficile aujourd'hui, à cause de tout ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à l'époque, on était beaucoup dans la spontanéité, et la spontanéité marchait presque toujours. C'est-à-dire qu'il suffisait qu'il y ait l'étincelle, les participants eux-mêmes, amenés avec tellement de propositions, d'ateliers, de fêtes, des idées dans les débats, etc., que la spontanéité, enfin, ça faisait boule de neige, quoi. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas, donc c'est un énorme travail de préparation. Et ce que je veux dire par là, c'est que le GLH, non seulement avait des difficultés à gérer le lieu qu'il avait, puisque c'était un lieu associatif qui posait des problèmes de gestion ordinaire d'un lieu associatif, quand c'est un bar associatif, et puis était épuisé, élément de plus, était épuisé par l'UEH qui venait de se passer. En fait, ça a été la grande parenthèse des UEH de 87 à 99. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre des années et des années avant que l'initiative revienne. Alors, sur ces années-là, on peut en parler longuement, les années SIDA, j'appelle ça les années de plomb, mais je ne sais pas comment chacun peut appeler ça, en fait, c'est des années terribles. Et même à Marseille, moi qui suis un peu dans le mouvement homosexuel local, rien que pour faire revivre une réalité homosexuelle locale, il a fallu attendre le début des années 90, et c'est allé très lentement, très lentement. Mais je pense que ça a joué un petit rôle, à partir du moment où se recréait quelque chose sur Marseille, ça a joué un petit rôle pour faire renaître les universités d'été. Un petit rôle parce que il a fallu d'autres facteurs. Dans les autres facteurs, il y a eu simplement un premier élément qui a été la réapparition de Jacques Fortin. Jacques Fortin qui prend contact avec des anciens du GLH, qui prend contact avec son réseau, c'est-à-dire que son réseau politique, son réseau, pas seulement, un réseau aussi intellectuel, réseau tout un réseau, et il propose à tous ces gens-là, à toutes ces personnes, de faire renaître l'université d'été. Et c'est au cours des années 78. Et c'est un véritable pari. Et d'ailleurs, lui dit quelque part, je le lirai demain, il le dit quelque part, je m'en suis pris plein la figure, parce que on m'a dit, tu es un ringard qui veut refaire des choses qui appartiennent au passé, il faut faire autre chose, quoi. Enfin bon. Et d'autres, au contraire, qui l'ont encouragé. Et je sais qu'il a fait partie des gens, j'ai fait partie des gens qu'il a contactés, mais plein d'autres. Et donc, on est arrivé au cours de l'année 98, à créer, à se rencontrer, à Paris ou ailleurs, c'était surtout à Paris, à se rencontrer pour commencer à réfléchir à ce que pourrait être cette prochaine université d'été, celle de 99. Donc je m'arrête là, j'ai trop parlé. Je crois que le plus intéressant pour vous, c'était d'entendre dire des choses sur ces années-là. Mais si vous voulez qu'on parle d'années plus récentes, n'hésitez pas. Voilà, qui c'est qui veut parler?
Attends, j'ai le micro dans la main.
Vas-y.
J'aimerais que quelqu'un, toi ou ceux qui étaient là, essaye de faire une image, donne une image un peu comme un film sur ce qui se passait. Les lieux, combien vous étiez, comment les gens étaient habillés, les répartitions hommes-femmes, qu'on ait une petite idée de l'atmosphère.
Oui. Bon, on va vous poser plusieurs questions, puis après on répond à tout.
J'aimerais bien parler de l'autogestion et de l'histoire de l'autogestion au sein des UEH.
Encore, oui.
Juste d'abord un commentaire puis après une question sur le creux, la disparition des UEH pendant quelques années. En fait, dans le mouvement féministe, on a le même creux au même moment, où les associations sont à plat, on ne voit pas de nouvelles générations arriver, les féministes qui ont fait mai 68 se demandent où sont les jeunes, se posent la question de la transmission du savoir militant, de la politisation, de transmission des savoirs qui ont été constitués dans cette période très riche qui a été un petit peu antérieure. Et donc ça, c'était un peu un commentaire plus général sur la question de la transmission du militantisme. Et aussi, je voulais savoir si à cette époque-là, comment se positionner à la place des intersexes, des trans, des travestis, comment c'est là ces débats qui sont très présents aujourd'hui. Moi, j'étais aux UH il y a 6 ans, je ne les avais pas vus. Je me demande à l'époque comment ça se posait et l'articulation entre les différents groupes au sein de la minorité LGBTQI, à l'époque, comment ça se posait?
Je réponds déjà à cette question.
Donc, qui participe? Il y a... d'abord, le GNH de Marseille est mixte. Il y a un groupe qui s'est créé pas loin du GLH, enfin pas loin géographiquement, par le hasard des locations de locaux, qui était tenu par des femmes et en désir d'exclusion, pas d'exclusion, mais soyons positifs, en désir de se retrouver entre femmes. Hein. Comme de non-mixité, excusez-moi. De non-mixité. Et je sais que, pour ma part, à cette époque, j'ai eu une fois l'occasion d'aller voir l'adresse, mais pas possibilité d'entrer. Hein. Et donc, il y avait la mixité du côté du GLH et la non-mixité de l'autre côté. Mais c'est juste pour donner ça permet de faire un rapprochement avec aujourd'hui, quoi. Mais ce qui fait qu'à l'époque, il y a eu... il faut que j'arrive à retrouver. À l'époque, il y a eu plusieurs femmes qui étaient au GLH. Et il y avait en particulier, si vous en souvenez, Odile Boucher. Et puis, il y en a eu d'autres, Thérèse et Teresa. Je ne donne pas leur nom en entier, d'abord parce que ça ne m'en vient pas. Et deuxièmement, simplement, elles étaient en couple à cette époque-là. Donc, il y avait Thérèse et il y avait Teresa. Et puis, il y en avait... Donc, il y avait un vrai effort hein, de mixité. C'est pas pour ça qu'on était meilleur en termes de mixité, puisqu'il y avait quand même ces... Bon. Il y a aussi le fait qu'à cette époque-là, chez les femmes, mais moi, je ne suis pas bien placé pour en parler, je ne suis qu'observateur extérieur, il y avait évidemment le MLF, et il y avait... il me semble une volonté des femmes de travailler d'abord à l'intérieur du mouvement des femmes, les lesbiennes travaillent d'abord à l'intérieur du mouvement des femmes, et ce qui fait que il y avait une nette différence entre les femmes qui acceptaient d'aller avec les mecs et les femmes qui étaient à l'intérieur du mouvement féministe. Je sais pas si j'ai répondu à tout. Donc il y avait une participation inévitablement minoritaire des femmes. À l'université d'été, on n'est pas loin de aujourd'hui, quoi. En ce qui concerne l'autogestion, c'était une idée, il faut bien voir, c'était une idée qui certes était, nous avait tous marqués avec les événements de mai 68, pour autant qu'on était étudiants dans les années 68, mais c'était une idée qui n'était pas... et donc, elle jouait un rôle, mais elle n'était pas à ce point exprimée comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que c'est les leçons, non pas de la non-autogestion, mais de la démobilisation, de la façon dont, au cours des dernières universités d'été, les adhérents se sont un peu trop appuyés sur l'équipe organisatrice, qui a fait, qui a amené ce retour, et en particulier lors des assises de 2003, mais ça on pourra en reparler aussi, où en 2003, à la fois les universités d'été avaient super bien redémarré, mais à la fois les organisateurs et organisatrices étaient épuisés au sortir des UH parce que le nombre de gens qui s'impliquaient vraiment dans l'organisation était très réduit par rapport au nombre d'adhérents. Et donc ça explique l'insistance qu'il y a aujourd'hui sur ce sujet. Mais à cette époque-là, c'était complètement différent. C'était un tel emballement, un tel plaisir de chacun de participer à la démarche collective, que tout le monde s'impliquait beaucoup, même si ça n'empêche pas que le groupe organisateur était épuisé à la fin des universités d'été. Mais ça, je crois que c'est inévitable. Et là, après, c'était sur quoi pour...
La question du savoir militant.
Voilà, oui. Et en particulier la question des trans et des... Et des... Alors, ça, c'est une question qui est absolument nouvelle. Moi, quand je vois, il y a 2 ans, l'atelier des trans auquel j'ai participé, que je voyais, j'entendais ce qu'ils disaient, ce qu'elles disaient, eh bien, je me rendais compte qu'elles vivaient presque 30 ans plus tard ce qui avait été vécu 30 ans plus tôt par les gays et les lesbiennes, et qu'elles ne faisaient qu'émerger à ce moment-là. Ça n'empêche pas qu'il y avait un certain nombre de transgenres ou un certain nombre de transsexuels. Mais les transsexuels n'étaient connus que dans le cadre de la prostitution, ou quasiment. Et les transgenres, moi je n'ai guère qu'un en tête, ou qu'une en tête, c'est Hélène Azéra. Et ça, il faudrait qu'elle vous en parle. Elle est venue en parler longuement l'année dernière, parce que elle a été... Elle a été, là-dessus, elle a énormément de choses à dire, mais elle a été une des rares, à s'exprimer, en plus, ayant toute l'histoire, remontant au phare. Et ça, c'est vrai qu'elle a un témoignage extraordinaire à donner, Hélène. Voilà.
Je ne sais pas si j'ai répondu. Qui veut parler? Qui veut... J'ai une question sur le micro, si on peut faire tourner plus. Alors ça y est, je vais le faire par là. Mais là, c'est les actes des années.
Est-ce qu'on pourrait parler des premières cuisines solidaires et de la mise en place, plus exactement, des interactions entre les différentes personnes qui habitaient dans les mêmes étages et comment ils se sont regroupés pour s'entraider?
Alors là, il faut donner la parole à... tu parles des universités d'aujourd'hui, là.
Ok.
Il faut donner la parole à des... Moi, j'habite pas dans les locaux du CROUS. Je rentre chez moi le soir. Donc là, s'il y a des gens qui peuvent me dire, répondre à ta question.
C'est quoi la question?
Comment, dans l'organisation au niveau des étages...
Je peux pas répondre, mais tout à l'heure, ça a posé une question sur l'image aussi des gens, comment ils étaient habillés, etc. Bon, je ne sais pas si tu le sais ou si les gens savent, mais aux toutes premières UH, donc de 70, 79, oui, je mélange les chiffres, la télévision belge a fait un reportage. La télévision belge était présente aux UH, et un film existe sur ces UH. Bernard, d'ailleurs, ici, on est l'un des principaux protagonistes. Et Bernard, ici. Et ce film existe dans les archives. Un film de Marc Lamène, réalisateur de télévision belge assez connu.
Bah oui, qui a fait
et qui est l'un des créateurs de l'émission Striptease. Et il existe une copie de ce film à la médiathèque de la communauté française de Belgique. Également aussi probablement dans les archives de la RTB. Bon, je ne sais pas exactement, ça doit être un film pellicule de 16 mm.
Non.
C'est déjà la vidéo?
De la vidéo, et maintenant ça a été nettoyé, maintenant on a une copie DVD.
Oui, mais c'est à partir de ta copie.
Les séquences, débat avant et après.
Mais c'est à partir de ta copie à toi.
Mais j'ai toujours là, c'est une copie originale en Betamax.
Ah voilà, faut voir, parce que Betamax c'est assez compliqué, mais enfin moi je travaille en interne à la télévision belge, et je pourrais essayer éventuellement de me renseigner pour voir, pour retrouver l'original de ce document, éventuellement faire une version restaurée qu'on pourrait éventuellement remontrer ici l'année prochaine ou... Oui, c'est un double reportage. Donc ça, ce serait cette occasion de se replonger davantage en... Et on, tu disais qu'on voyait, je me souviens, on voyait la manif sur les marches du, de la gare, c'est ça.
Les marches...
Il y a...